Chaque fois que ça démarre, j'ai l'impression qu'on ouvre une fenêtre.
Oui, et que le monde entier rentre par la radio.
Je me fais souvent cette promesse-là. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de lire ce livre qui m'attend sur la table de nuit, le temps d'appeler un ami que je n'ai pas vu depuis deux hivers, le temps de marcher sans but précis et me dire que je suis en train de marcher juste pour sentir l'air froid sur le visage. Les semaines défilent, la lumière baisse, on rallume les radiateurs et la promesse se met à ressembler à un mensonge puisque je décale, je reporte, je remets à plus tard. La saison change, les températures chutent, c'est le moment parfait, semble-t-il, pour se demander ce qu'on fait de notre temps gratuit, du temps cadeau. Est-ce qu'on sait encore ne rien faire d'utile? Est-ce qu'on sait encore se laisser traverser par ce qu'on vit, par ce qui se passe chez nous, sans tout transformer en projet, en objectif, en to-do list? Pour ce best-of de l'agité du local, j'avais envie de vous proposer une chose très simple, s'asseoir ensemble, le temps d'une émission. Dans cet entre-deux que je vous propose le vendredi. On va réécouter des morceaux de vie, des rencontres qui ont jalonné ces derniers jours, semaines, des voix qui racontent le territoire qu'on habite autant que nous-mêmes. Peut-être que dans ces extraits-là, vous reconnaîtrez un moment que vous avez vécu, peut-être que vous aurez juste envie de rester là, à le réécouter. Peut-être qu'ouvrir le micro en vaut bien la peine, peut-être que tendre l'oreille une seconde fois nous fait revivre quelque chose d'agréable. C'est ce que je nous souhaite chaque vendredi, et si ça marche, si ça vous touche une seconde fois, ce sera déjà beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à Laval, en pleine révolution, avec Jean-Luc Broudin qui venait ici nous parler de son premier roman, Salve Regina. Écoutez.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Alors comment raconter la révolution depuis Laval, deux siècles plus tard, peut-être en parlant d'un homme, d'un prêtre malade, enfermé, qui prie encore pour ceux qu'il condamne. Peut-être en parlant de foi, de peur, de pardon et de cette lumière qu'on cherche au milieu du chaos. Jean-Luc Broudin, Lavallois, signe avec Salve Regina un premier roman d'une rare intensité, un texte qui mêle la grande histoire et l'intime, la politique et la prière pour raconter ce qu'il reste de l'humain quand tout s'effondre. Jean-Luc, vous êtes justement avec nous aujourd'hui pour en parler. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci, merci à vous surtout.
Alors Jean-Luc Broudin, vous êtes né à Laval, vous êtes issu d'un milieu ouvrier. À quel moment l'écriture est-elle entrée dans votre vie?
Alors l'écriture, elle a dû entrer par la lecture, certainement, forcément au départ. Et ensuite, très rapidement, par des rédactions libres au collège, où j'avais l'occasion là de laisser libre cours à mon imagination. Et c'était la matière, en fait, je n'étais pas forcément très assidu et très scolaire, et c'était la matière où je brillais un peu plus.
Vous aviez déjà écrit des nouvelles avant Salve Regina, certaines même primées. Qu'est-ce qui vous a donné envie cette fois d'aller plus loin jusqu'au roman?
Alors en fait, j'ai commencé l'écriture par des nouvelles et par un site participatif sur Internet où on échangeait les textes avec d'autres internautes, et j'avais des bons retours. Et j'ai ensuite fait des concours. Il y a beaucoup de concours de nouvelles en France. J'ai eu aussi quelques prix, donc c'était assez gratifiant et ça m'a beaucoup motivé au départ. Et puis, à un moment, j'ai repris une nouvelle qui avait été primée à Laval en 2000. C'était un concours de nouvelles organisé par le Courrier de la Mayenne et la mairie de Laval. Ce texte, je l'ai repris pour en faire un roman au moment en fait, où j'écrivais des nouvelles plus assidûment.
Voilà. Si on se penche sur votre roman Salve Regina, publié aux éditions Complicité, cette histoire se déroule pendant la Révolution française, ici à Laval. Alors pourquoi avoir choisi cette période et ce lieu, et comment est née l'envie d'écrire sur cette période de l'histoire précisément?
Alors, j'ai pas vraiment choisi, j'ai été presque guidé. Donc en fait, à une époque, j'ai eu besoin de retrouver un peu de spiritualité dans mon existence. Pas de religion, mais de spiritualité, de prendre du recul sur le monde, sur ma vie personnelle sûrement. Et j'ai commencé en fait à fréquenter. Si on cherche de la spiritualité à Laval, on a des églises. Donc je suis rentré de plus en plus souvent dans la cathédrale. les murs épais me protégeaient de tout le monde entier et j'y retrouvais beaucoup en fait d'intériorité. Et dans cette cathédrale à Laval, je suis tombé sur un tableau. Le tableau en fait qui représente pendant la période de la Terreur l'exécution de 14 prêtres vieillards et malades par des révolutionnaires. Et la scène, elle est violente sur le tableau, forcément. Et il y a un vieux prêtre qui est assis sur une chaise. Et c'est un jeune révolutionnaire qui le porte pour l'emmener à la guillotine. Et en fait, bon, en dehors de l'aspect historique ou religieux, je me suis dit, mais ce révolutionnaire, ce jeune homme, qu'est-ce qui fait que ce matin-là, il se lève pour porter son grand-père presque sur la guillotine. Et... J'ai lu toute l'histoire, donc il y a un explicatif à la cathédrale qui explique donc toute la scène et comment c'est arrivé. Et je me suis dit, je voudrais bien écrire l'histoire de ce jeune révolutionnaire et qu'est-ce qu'il fait après ça, quoi. Quelle va être sa journée et comment ils vont finir leur journée, ces jeunes révolutionnaires qui portent un idéal qu'on peut très bien comprendre, forcément. Et je les imaginais boire de l'absinthe ou du vin dans leur taverne, et peut-être en rire et peut-être en pleurer, quoi. Et puis j'ai essayé d'écrire, mais ça venait pas. J'arrivais pas à me glisser dans la peau de ce jeune révolutionnaire qui pourtant... donc il n'était pas proche de moi par l'âge, mais il était proche de moi par les idéaux, quoi. Et en fait, cette violence qu'il a suivie, j'arrivais pas à l'écrire. Donc, de fil en aiguille, je me suis plus retrouvé dans l'esprit de l'ecclésiastique en me disant je pourrais presque avoir son âge. Bon, j'ai un peu plus jeune. Il a 74 ans. Et il n'avait connu qu'un monde. Il a connu le monde régi par l'Église, par la royauté. Il a suivi les préceptes. Il a cru bien faire, certainement, je me suis dit. Il a participer à un monde qu'on va détruire, et peut-être fort heureusement, mais lui, comment il peut comprendre ça?
À la lecture de Salve Regina, moi j'ai eu l'impression que votre roman parle autant du passé que du présent. Est-ce que pour vous, écrire sur la Révolution, c'est aussi écrire sur notre époque? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé au moment de l'écriture, ou qui vous est venu après, ou qui ne vous a même peut-être pas effleuré? Mais moi, à la lecture, je l'ai ressenti très fort.
Non, ça m'est venu tout de suite en regardant le tableau, en fait. C'était quand même très peu de temps après la période des Gilets jaunes, après le Covid. Et on venait, en fait, en France, d'avoir de gros événements qui bouleversaient notre quotidien, qui changeaient notre monde. Et on est dans un système aujourd'hui, bon, on est fort heureusement en France en démocratie. On est cependant dans un système mondial capitaliste. C'est aussi peut-être un glissement, comme une fin de période. On n'en est peut-être pas encore là, mais je me suis questionné là-dessus, en fait. Et cette scène, elle représentait peut-être un chaos. C'est assez difficile de le dire, mais peut-être un chaos possible, en fait, pour nous aujourd'hui. Et dès le début, je voyais le parallèle, en fait, entre les deux périodes.
Joseph, c'est le personnage principal de ce roman, c'est le narrateur du roman, on le suit tout au long de cette histoire. Il est pris entre sa foi et des bouleversements politiques. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce personnage qui, en fait, n'est pas un personnage fictif? Vous avez construit autour d'un personnage réel.
Alors, j'ai construit un roman historique et je me suis basé sur des faits historiques. En recherchant dans les archives, dans les écrits, beaucoup d'écrits de Jocelyne Dlouski, qui est historienne à Laval, et aussi dans le magazine Oribus. Et donc j'ai pris parti d'écrire avec des personnages réels. Tous les personnages du roman ont existé, on va reconnaître des noms importants à Laval. Les prêtres, ce sont leurs vrais noms également. Donc j'ai pris ce parti-là pour être dans la réalité de l'époque. Et j'ai créé d'autres personnages à côté. Toute la famille et tous les amis sont fictifs. Joseph, il est âgé, il est malade. Et il a perdu sa maman très tôt. Je trouvais qu'il était fragile, cet homme, et que je me suis rendu compte, en définitive, que sur son parcours, il avait dû affronter cette fragilité. Et l'a retrouvé sur la fin de sa vie, au final. C'était un personnage intéressant, parce qu'il pouvait autant défendre ses idéaux, parce qu'il reste figé dans sa religion, mais, et c'était pour moi le seul personnage qui pouvait quand même se dire oui, mais...
Votre langue est très poétique et incarnée. Elle permet, je trouve, la nuance qui est essentielle sur cette thématique et sur justement tout ce que traverse le personnage de Joseph. On commence en pleine période de révolution, mais on se replonge aussi dans ses souvenirs, dans ce qu'il a traversé et dans toute l'évolution de sa pensée, de son rapport à la foi. La nuance était essentielle pour vous au moment de l'écriture, de ce que vous vouliez que le lecteur ressente aussi.
Oui, alors je voulais surtout pas avoir un avis tranché. Et j'en ai pas, je crois. Et je voulais surtout pas prendre parti non plus. En fait, c'est un peu mon fonctionnement, presque. C'est mon fonctionnement. Il a ses travers, parce que parfois ça peut être un manque d'engagement. Et c'est un fonctionnement qui plage toujours en témoin, alors c'est plus facile. Et je pense que j'ai besoin sûrement de cette facilité et de ce détachement par rapport aux choses. Et c'est exactement pour ça, je pense, que j'ai plus écrit sur une période passée que sur une actualité qui me bouleverse autant aujourd'hui, en fait. C'est plus facile avec cette distance pour moi.
Quand on lit Salve Regina, on sent une attention très forte au corps, aux sensations, aux odeurs, à la lumière. J'ai la sensation, Jean-Luc, que vous écrivez presque par l'image. Est-ce que c'est juste ?
Oui. Oui, c'est presque... Dans ma tête, il y a un film. Ça, c'est sûr. Ouais.
Qu'est-ce que ça représente pour vous d'ancrer une fiction historique ici, dans votre ville natale ? Est-ce qu'il y a un attachement particulier ou est-ce que c'est un prétexte ?
Non. Alors, rapidement, dès que je suis sorti de la cathédrale, je crois, j'ai regardé Laval différemment. Et je marchais dans des rues où des hommes, beaucoup d'hommes, ont marché avant nous. Et je percevais, au fur et à mesure de l'écriture, je percevais tous ces gens, en fait. J'entendais les bruits, je marchais dans les rues de Laval, j'entendais les bruits des charrettes, des seaux qu'on jette dans la rue. C'était assez... ça, c'était même une très belle expérience. De plus, c'était durant les travaux de la place de la mairie. Et on a ouvert le cœur de la ville pour moi, en plus. Alors, c'était vraiment tout se rassembler au même moment, en fait. Et je suis quand même très attaché à cette ville de Laval. J'y suis né. Donc, pour moi, c'est mes racines. Mes parents n'étaient pas originaires d'ici, mais c'est mes racines. Et c'est une belle ville, voilà.
Vous êtes retourné devant ce tableau à la cathédrale après avoir écrit ce roman.
Ouais, mais très souvent. Je pense que je leur parle maintenant aux prêtres.
Vous êtes issu, Jean-Luc, d'un milieu ouvrier. Est-ce que vous pensez que ça influence votre regard sur la littérature, sur les voix qu'on choisit de raconter, ou pas forcément ?
Là, oui, c'est sûr. Ma sensibilité, elle est ouvrière. Et je pense qu'on est un peu tous conditionnés un peu, même si on est capable de faire d'avancer beaucoup dans la vie, à travers les rencontres ou autres et les questionnements, mais on reste quand même attaché, je pense, à ces idéaux d'enfance. Et ça, c'est important pour moi. Oui. Dans ce livre, en fait, je retrouve aussi, j'ai fait comme Joseph, hein, j'ai retrouvé aussi ma famille, mon père, ma mère.
On parlait de ce tableau qui a peut-être été à l'origine de l'écriture de ce roman. Et alors, les images nous viennent à la lecture de votre roman, Jean-Luc. Mais il y a aussi une image qui est plus que palpable, c'est celle de la couverture du roman. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, la couverture, au départ, je voulais mettre le tableau de la cathédrale. Mais bon, il est très connoté religieux et puis il est violent. Il est trop violent. Et c'est mon épouse qui a fait une petite aquarelle et qui représente en fait la pièce principale du couvent de patience où le prêtre est emprisonné pendant un an avant son exécution. Et donc mon épouse a fait une très 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 belle aquarelle et J'ai fait une grosse erreur, c'est qu'à l'édition, je ne l'ai pas mentionné lors de l'impression du roman.
On le fait là, ici, sur les ondes voilà. De l'autre radio. Quand on écrit un texte aussi habité, et alors habité, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est en fait un huis clos, presque, quasiment tout au long de l'histoire, c'est un huis clos. Alors effectivement, on en sort via les souvenirs du personnage, via parfois même des visions, des hallucinations. Est-ce que, en sortant de ce huis clos, en sortant de cette écriture, quelque chose s'est transformé aussi en vous, Jean-Luc ?
Alors j'ai eu la transformation avant. Donc j'étais en train d'écrire ma transformation. Le huis clos, il était important pour qu'on soit enfermé comme ce prêtre est enfermé en fait. C'est un roman où il y a quand même beaucoup de mots. Il peut être un peu étouffant par moments, je pense, à la lecture. En tout cas, on manque parfois de respiration. Et c'est pas toujours ma façon d'écrire. Et je l'ai écrit comme ça parce que je pense que le prêtre, il est dans une telle confusion de pensées qu'elles peuvent venir vraiment de partout dans son esprit et il étouffe en fait. Et c'est aussi sa maladie, il étouffe.
Comment est-ce que vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie d'écrivain ?
Alors j'ai de la chance que je travaille en fait en système d'équipe, donc je travaille sur des horaires décalés. Ce qui fait que parfois, j'ai des journées entières où j'ai bien travaillé la nuit, mais je peux écrire la journée. Bon, à la fin, il faut aussi savoir se reposer, mais j'y arrive ainsi, en fait. Ça, c'est aussi le moyen, en fait, de s'extraire du monde. Si j'ai travaillé dans la nuit et que je ne travaille pas la journée, je suis extrait du monde, en fait.
Qu'est-ce que peut la lecture dans un monde qui se rapproche plus ou moins du chaos que vous racontez dans cette histoire-là?
Bon, la lecture, c'est le livre, c'est la plus belle invention de l'humanité, c'est sûr. Ça permet quand même, le livre, il permet d'aller rencontrer des époques, des gens différents, ça permet de tellement de rencontres et d'évasion, et il faut lire.
Et de retrouver peut-être une liberté que vous abordez et que vous creusez, je trouve, dans ce roman. Cette question de liberté, de quelle forme est-ce qu'elle prend et comment on la trouve, comment on la cherche même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà une autre histoire en tête, Jean-Luc, une suite peut-être, ou un tout autre horizon ?
La suite, j'y ai pensé dès le début, en fait. Mais je n'aime pas les suites de base. Je ne lis jamais de suite et je ne veux jamais voir de suite au cinéma. J'ai commencé un autre roman. Presque aussitôt, parce que le fait, sans le vouloir, j'ai écrit un roman historique et je me suis rendu compte que c'est un peu mon credo finalement. Donc je me suis souvenu d'un autre fait divers et j'ai commencé à écrire en janvier. Et je pense qu'il va être beaucoup plus important en termes de pages. Et c'est un fait divers qui se passe en 1930 entre Le Havre et les îles Kerguelen.
Si on pense à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute, mais tout simplement au lecteur de ce roman, qu'est-ce que vous espérez qu'il ressente à la lecture de cet ouvrage ? Qu'est-ce que vous espérez qu'il vous dise ? Puisque vous lui donnez rendez-vous, on va donner les dates juste après, vous me répondiez à cette question.
C'est pas forcément, je pense, un thème ou un thème, la Révolution, un décor, tout ce qui est ecclésiastique ou pas. C'est pas forcément quelque chose qui peut attirer au départ le lecteur contemporain. On est loin des thèmes contemporains de l'écriture aujourd'hui. Mais en fait, je peux dire au lecteur qu'il va s'y retrouver dans ces thèmes contemporains, en fait. Et puis en fait, ça parle pas seulement de notre existence aujourd'hui, ça parle, je pense, de l'humanité et la condition humaine en définitive. Et c'est ce que j'écris, je pense, tout le temps.
On parle de bouleversement d'époque et de bouleversement intérieur, et je crois que c'est justement là que vous emmenez le lecteur qui lit cet ouvrage. Vous donnez rendez-vous, justement, à ces lecteurs pour des rencontres. Le prochain rendez-vous, je crois, c'est le 22 novembre.
Alors, c'est le 22 novembre à la librairie M-Lire de Laval, rue de la Paix, à partir de 11h pour une séance de dédicace. Et il y aura une autre séance de dédicace à la librairie M. Lire Anjou de Château-Gontier, Ce sera le dimanche 14 décembre. Je vais peut-être aussi avoir une proposition de la part de la bibliothèque de Laval. J'avais amorcé un peu un rendez-vous avec eux, que ce sera en début d'année. Il y aura un article dans l'Ouest France également prévu prochainement. Et j'ai rencontré monsieur le maire de Laval et j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à ce livre. Et je serai également dans un article dans le bulletin municipal en janvier.
Et donc on suit ça de près. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre tout premier roman, Salvé Regina, publié aux éditions Complicité.
Oui, édition Complicité que je remercie parce que j'ai envoyé forcément mon manuscrit par la poste à plusieurs maisons d'édition, une vingtaine, et deux mois après, les éditions Complicité m'ont permis de faire cette belle aventure.
Et on a hâte de découvrir la suite. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup, à vous.
L'autre radio, eh ben c'est la vie qui passe en direct.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, plus la princesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. Couvrance que l'on délaisse, la rue de Siam, c'est nuit d'ivresse, ce n'est pas par manque de politesse, je suis l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe, mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espace?
Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom de Dieu que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom de Dieu que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre part à la renverse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, est-ce que toi aussi ça te bouleverse?
Aujourd'hui, au moins, quelqu'un te berce.
On vient d'écouter Brest de Miossec. Vous écoutez toujours le best-of de la JT du local. J'avais envie de faire une petite halte du côté des livres parce que quand le froid s'installe, on se met à chercher des abris qui ne prennent pas l'eau. Celui où je vous emmène est dans le sud Mayenne, à Château-Gontier, dans la librairie Emily Ranjou. On nous parle maintenant d'un coup de cœur. Écoutez.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire.
pour les grands et les petits.
Bonjour à tous, on se retrouve pour un classique adapté en BD. Et oui, ça arrive, c'est L'homme qui plantait des arbres, je ne l'avais jamais lu. Alors tout le monde se dit, comment ça? Il est libraire, il n'a jamais lu Giono avec L'homme qui plantait des arbres. Eh ben non, et je n'ai toujours pas lu Le Petit Prince. Comme quoi, ça arrive. Peut-être qu'un jour sera adapté en BD, du moins correctement. L'homme qui plantait les arbres, c'est un bouquin qui est de Giono et qui a été adapté par Florence Bonvalet et Daniel Cazenave. Alors, chez Gallimard, bande dessinée. Pour ceux qui sont comme moi, qui sont pas forcément curieux, qui se disent « Non, j'ai pas envie de lire L'homme qui plantait des arbres », et ben en fait, si. Lisez-le, c'est un texte qui est sublime. Alors, vous dites « Oui, oui, tout le monde le sait qu'il est sublime, c'est des cœurs tard. » Et ben non, je vous dis quand même, il est sublime. C'est l'histoire d'un homme qui, toute sa vie, s'est échiné à replanter une forêt, enfin, à planter une forêt, et qui découvre qu'au fur et à mesure, la forêt ramène la vie, mais pas forcément qu'au niveau de la nature. Ramène la vie dans les sociétés, ramène la vie dans les cœurs, ramène la vie dans les gens. Et c'est absolument magnifique, c'est un très très beau récit d'un homme qui a décidé de consacrer sa vie à quelque chose qui est plus grand que lui et dont il ne verra sûrement jamais le résultat. C'est absolument terrible, c'est absolument sublime, c'est absolument à lire. Et hey, pour ceux qui n'ont pas lu même qui plantait des arbres, peut-être temps de s'y mettre quand même. Hein. Donc voilà, c'est l'adaptation de Florence Bonvalet et d'Ale Cazenave, audition Gallimard bande dessinée.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Montier, et sur l'autre radio.
Et nous voilà donc arrivés au moment de la chronique de la petite nouvelle. Adèle nous a rejoint. Bonjour Adèle.
Bonjour Margot.
Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi ce machin? On dirait un micro.
Ça y est, ça recommence.
C'est l'heure de la petite nouvelle. Viens avec nous. On vous présente l'actu culturelle.
Tu sais bien qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça.
Attends, non, mais en fait, attends, c'est parce que en fait, c'est une émission où je présente des spectacles, des artistes et tout. Si tu sais pas quoi voir sur la Mayenne, ça peut être sympa. Si tu sais pas quoi écouter aussi.
Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma taille.
Olé, olé, les tapas, les omelettes, viva España, la plage et le super soleil. Quoi? Non mais si, c'était très bien. Je sais ce que c'est l'Espagne. Je suis allée à la saison espagnole à Laval, je te signale. Oui, pardon, c'est mon ami imaginaire, c'est Carlos. Il s'appelle pas du tout Carlos, en fait, il s'appelle Charlie, mais j'ai voulu lui donner un petit nom espagnol, parce que voilà, maintenant, je suis une spécialiste de l'Espagne, mesdames et messieurs. Alors, ben non, mais attends, tu connais pas la saison espagnole de Laval? Pfff, mais t'es grave, toi. Alors, du 4 novembre au 19 décembre, on peut découvrir dans les bibliothèques de Laval Aglo, du 40 ou encore du Cinéville, du cinéma, de la musique, de la littérature, du débat et de la gastronomie espagnole. Et oui, je ne plaisantais pas quand je parlais de tapas et d'omelettes tout à l'heure. Pour rendre hommage à la culture espagnole, Laval et Gandia ont un partenariat depuis 1978. Est-ce qu'il y aura de la corrida sur Laval? Non, il n'y aura pas de corrida et tant mieux parce que bon... Moi, les animaux, j'aime quand même beaucoup, beaucoup ça. faut pas faire du mal aux petites otaries. Bref, laissez-moi vous raconter une petite histoire. En 1978, le maire de Laval et le maire de Gandia décidèrent d'allier leurs deux cultures, la pluie de la Mayenne et le soleil de l'Espagne, la verdure de Laval et les plages des Gandia, pour faire naître une amitié profonde entre les deux pays. Au fil des années, leur échange devint plus seulement météorologique, mais aussi culturel et sportif. Aujourd'hui, le maire de Gandia revient un peu sous la forme d'un fantôme durant la saison espagnole pour réclamer son dû, afin que tous les Lavallois connaissent la culture de sa ville, les palais ducals, mais aussi les musées des Fayas. Ainsi, avec la langue universelle des deux peuples, celle de la culture et du sport, ils n'ont plus qu'un seul rêve, s'unir et mettre en place une nouvelle démocratie de la culture lavalloise et espagnole. Y arriveront-ils un jour? La suite dans les prochains épisodes. C'était bien? Non, c'était pas bien? Tu trouves ça raciste? Mais non, mais ça va, c'est des Espagnols, c'est pas raciste. En
en tout cas, si vous voulez un peu mieux connaître l'Espagne que moi, vous pouvez retrouver le programme sur laval.fr. Vous tapez saison espagnole et normalement, vous devriez tomber dessus. Il y a également des conférences, comme par exemple l'une sur le droit des femmes le 21 novembre, présentée par Carole Vinyals, ou encore des concerts comme Viva España le 30 novembre au 40. Et surtout, Margot, je pense que tu me connais depuis un petit moment, tu sais à quel point j'aime la littérature. On a lecture par Les mots en partage à 16h à la bibliothèque Albert Legendre. On vous présente les auteurs Federico Garcia Lorca, Antonio Muñoz Molina ou encore une certaine Carole Martinez. Et je pense que vous en avez déjà entendu parler puisque je vous ai présenté Carole Martinez dans une précédente émission. Bon, alors je vais vous laisser. J'ai un petit cours de danse flamenco. Bon, alors je ne voudrais pas me vanter, mais le prof dit que je suis du genre... Allez, unique dans mon genre. Je vous quitte sur un petit extrait d'un poème de Federico Garcia Lorca que j'aime beaucoup, Romance à la lune, sur une musique de Luis de Narvaez, La canción del emperador. Est-ce que vous voulez la suite? Eh bien, venez à la saison espagnole. La lune vint à la forge. Avec sa jupe de lavande, l'enfant la regarde. L'enfant reste à la regarder. Dans le vent attendri, la lune agite ses bras et montre, lubrique et pure, ses seins de dur étain. Enfuis-toi, lune. Si venaient les gitans, ils feraient avec ton cœur des colliers et des anneaux blancs. Petit, laisse-moi danser. Quand viendront les gitans, ils te trouveront sur l'enclume, tes petits yeux fermés. Enfuis-toi, lune. J'entends déjà leurs chevaux. Petit, laisse-moi, ne foule pas ma blancheur amidonnée. Le cavalier s'approchait en battant le tambour de la plaine. À l'intérieur de la forge, l'enfant a les yeux fermés. Parmi les oliviers venaient, bronze et rêve les gitans, leurs têtes redressées et leurs yeux entrouverts.
Et maintenant, place à notre chroniqueur Magnette, un regard des fulgurances, une manière de dire ce qu'on n'avait pas vu passer. Écoutez.
La chronique de Magnette. Sur le compte rendu.
Bonjour, toi. Et j'ai déjà insisté par le passé, ici même sur l'autre radio, celle qu'il te faut, sur le fait qu'il soit indispensable d'être bien dans ses pompes. Mais aujourd'hui, vu que ça serine gentiment et qu'il fait bon à se retrouver chez soi, je tiens à exprimer l'éloge de la pantoufle, ou du chausson, si tu préfères. Personnellement, je ne me considère pas trop pantouflard et ne crache pas sur un chausson aux pommes. Mais tu t'en fous et c'est guère drôle. Justement, de nos jours, on peut dire la pantoufle, le retour. Comme si nous causions d'un super-héros moulé dans son collant, flap-flappant entre les nuages. Parce que figure-toi que les jeunes générations ne boudent plus la pantoufle de papa. Et cela, depuis le confinement du Covid en 2020. La pantoufle était ringarde jusqu'à connaître une recrudescence sur les ventes à cette période. Vente qui a encore progressé en 2024. Clémentine Collin-Richard, présidente de la Fédération française de la chaussure, nous le confirme. En 2024, 35 millions de chaussons ont été vendus en France pour un chiffre d'affaires global de 540 millions d'euros, une hausse de 3% par rapport à 2023. Il faut souligner que le style a évolué pour toucher un plus jeune public. Histoire de rigoler un brin, pour mes 60 piges, des amis m'ont offert une paire de charentaises, des vrais. Je les ai encore. C'est le pied. Or, aujourd'hui, Cette vieille pantoufle traditionnelle revient avec du léopard, du tartan, et on peut les trouver partout. Bon, je ne pense pas que Jeanne et Tarzan, déjà slippés léopards, vont de liane en liane avec des charentaises, mais qui sait ? Gottlieb, ce grand dessinateur, a bien chaussé Super Dupont de ses grosses pantoufles chaudes et confortables. Maintenant, il existe aussi des modèles avec lesquels tu peux même sortir de la maison. Un véritable accessoire de mode vu sur les podiums de la Fashion Week. On sort ce soir ? Ok, je mets mes pantoufles. Non, bien sûr, il ne s'agit nullement de chaussons à talons aiguilles, ni de cuirasses pour aller pêcher au milieu de la rivière. On se calme. Surtout quand on chausse des pantoufles. Vincent Rivalin, directeur de la marque du même nom, bombe le torse en parlant de matières recyclées, de produits made in France, de la com sur les réseaux sociaux. Vieille tête de mule, je m'en tamponne les semelles d'être à la mode ou pas. Rentrant sous la pluie, j'avoue que je kiffe quitter mes pompes pour enfiler mes pantoufles. Quel panard ! Et en plus, c'est silencieux. Tu m'as entendu venir ? Topette. Attends, mais si, il n'y avait pas mes pantoufles. Ah non, mes pantoufles. Il n'y a pas un truc comme ça. Non. Ah non. Ah si, il y avait un truc avec les pantoufles. Ouais.
Sont passées mes pantoufles. Où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes pantoufles? Mes pantoufles. Mes pantoufles. Où sont passer mes pantoufles, pompons, où sont passés pompons, mes pantoufles, pompons, où sont passés pompons, mes pantoufles, mes pantoufles, mes pantoufles. C'est un peu fort, on ne les trouve pas, pourtant toujours moi je les mets. Telle là, va-t'en donc voir, t'es bien qu'elles sont en bas sur le trottoir, en train de faire les 100 pas sur le tapis. Mes orteils se trémoussent du plus petit des doigts de pied jusqu'aux pouces. Ils se bousculent, se serrent ou bien se poussent les uns contre les autres, comme ça en douce. C'est une fuite. Sont passés mes pantoufles. Où sont passés mes pantoufles? Où sont passés mes pantoufles? Mes pantoufles. Mes pantoufles. Vous avez pas vu mes pantoufles, vous? Et vous, vous avez pas vu mes pantoufles, Boulel?
Où sont passés?
Mes pantoufles sont passées, mes pantoufles. Où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes splebouts? Mes pantoufles. Mes pantoufles, 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 mes
pantoufles, mes pantoufles, mes pantoufles. Paroles de Claude Nougaro, musique et interprétation de Jean Constantin.
La chronique de la planète sur l'eau.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue sur les ondes de l'autre radio. Votre soirée commence à 19h avec notre club Oldies. Chaque semaine, l'émission Dance Hall Social Club vous replonge dans des sucreries musicales du passé. L'émission sera suivie à 20h de Tempus Fugit. On reste musical en allant de la pop au rock, de la prog au hard. Et tout de suite, ce sera donc à l'émission Cinérama qui nous parle des derniers rendez-vous du petit et grand écran à ne pas manquer. Avant de se quitter, j'ai envie de jeter un coup d'œil avec vous sur ce qui nous attend ce week-end. Samedi à 13h, Rock Dreams fera un focus sur Jade Warrior. Dimanche, Méta Classique arrive sur les ondes à 16h, suivi à 18h du Voyage Radiophonique qui nous parlera de La Fugue et le Canon, un documentaire belge sorti en 2024. Bien sûr, on termine tranquillement ce dimanche à partir de 21h. Avec Jazz Attitude. Moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de la JT du local. Toute la semaine on parlera éducation à la vie affective, relations de couple, reconstruction après des violences à l'occasion de la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. D'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et surtout s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, ils en ont assez entendu, non ?
Oui, mais ils reviendront, je te parie.